Bonjour, nous allons continuer notre étude au sujet de la pierre de Daniel. Vous savez, cette pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui a brisé tous les royaumes de ce monde pour établir le royaume éternel, c'est-à-dire le royaume de Jésus-Christ sur la terre. Et donc, je vous recommande d'écouter les prédications, les quatre prédications au sujet de la pierre de Daniel avant d'écouter celle-là, sinon vous risquez d'être choqué. Bon, je vais commencer par faire une lecture dans Apocalypse 14, 6, 7. Apocalypse 14, 6, 7. C'est Jean qui parle, il dit « Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu » et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui fait le ciel, qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Amen. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est la vérité. Donc voilà, aujourd'hui c'est la suite au sujet du rétablissement. Si vous n'avez pas écouté, je répète les quatre prédications dont le titre est « Pierre de David », 1, 2, 3, 4. N'écoutez pas celle-ci, elle vous choquerait et vous risqueriez de fermer votre esprit à quelque chose qui est sain. Ça serait dommage. Donc arrêtez et puis écoutez les autres d'abord, puis ensuite vous écouterez celle-ci. Maintenant, si vous avez écouté la 1, 2, 3, 4, vous pouvez écouter celle-là. Je vous expliquais dans les autres comment Dieu a placé sur le chemin de ma vie un livre qui est un autre témoignage de Jésus-Christ. Et dans Apocalypse 14, 6, il nous est dit qu'un ange volait au milieu du ciel et il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Alors, ce qui est écrit là, au sujet de cet ange, ça se passera pendant la grande tribulation. On le voit clairement quand on lit le contexte de Apocalypse. Hein. La question est, quelle est la différence entre notre évangile et l'évangile éternel qu'annoncera cet ange ? Ben, la réponse est simple, notre évangile n'est pas éternel puisqu'il n'a que 2000 ans. L'évangile que nous avons est la bonne nouvelle donnée par Jésus-Christ, qui est Dieu venu dans la chair il y a environ 2000 ans. Et depuis, cet évangile-là est adressé à tous les gens du monde entier, mais il n'a que 2000 ans. Sans la croix, qui est le message central de cette bonne nouvelle, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle qui doit être donnée. Ce que Jésus a fait sur la croix a été le point le plus important pour le salut des humains. C'est le message qui nous concerne, qui concerne notre dispensation. C'est cela que Jésus a voulu que ses disciples annoncent à toute la création. Vous trouvez ça dans Marc chapitre 16, « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle », c'est-à-dire l'évangile. Quel évangile? Sans l'évangile. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'évangile éternel? Qu'est-ce que c'est? Alors écoutez bien, ça ne va pas être facile parce que c'est quelque chose qui va vous paraître nouveau. Moi, ça fait 17 ans que j'étudie toutes ces choses et je vois que le temps est venu pour moi de vous le dire, de vous expliquer. Écoutez bien, Jésus est éternel. Et dès la chute d'Adam, c'est Jésus, Dieu dans sa création, qui a donné une bonne nouvelle à Adam. Quelle bonne nouvelle ? Ben, qu'il y avait possibilité de salut. Parce qu'il avait péché, il devait mourir, le salaire du péché c'est la mort, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Voilà. Mais il savait qu'il ne serait plus éternellement dans ce corps merveilleux que Dieu lui avait fait, et que son péché, sa transgression aurait des conséquences, mais qu'il pourrait avoir des enfants et que la race humaine se prolongerait à la façon des animaux, par le sexe. Et il pouvait offrir des sacrifices pour que Dieu porte sur eux un regard favorable. C'était ça la bonne nouvelle, qu'il pouvait offrir des sacrifices pour que Dieu porte un regard favorable sur eux. Ils ont eu des enfants, Caïn et Abel, et ces deux-là ont offert des sacrifices à Dieu. Ils n'ont pas tout d'un coup dit « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on faisait un sacrifice à Dieu ?» Non, Cela a été enseigné à Adam, et Adam et Ève offraient des sacrifices, et puis leurs enfants offraient des sacrifices, et il nous est dit simplement dans la Bible que Dieu porta un regard favorable au sacrifice d'Abel, mais qu'il ne porta pas un regard favorable à celui de Caïn. Mon but n'est pas de vous prêcher pourquoi est-ce qu'il n'a pas regardé le sacrifice de Caïn d'une façon favorable, je pense que vous le savez déjà. Et en tout cas, Caïn fut attristé, mais là, il a reçu une bonne nouvelle. C'est-à-dire un évangile. Il a reçu une bonne nouvelle, un évangile. Et c'est encore Jésus, Dieu, dans sa création, qui donna cet évangile, cette bonne nouvelle à Caïn. Il a dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête, c'est vrai, le mal se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle, ça. Caïn pouvait dominer sur le mal. Tu n'es pas obligé de se laisser avoir. Malheureusement, il n'a pas utilisé ce pouvoir et il n'a pas relevé sa tête, il n'a pas dominé sur le mal et il a tué son frère Abel. Alors Dieu le chassa de cet endroit, à l'est d'Éden, et... mais il n'est pas parti sans une bonne nouvelle. Parce que Caïn avait peur. Caïn avait peur, il s'est dit, si on me rencontre, si quelqu'un me rencontre, il va dire, ah, c'est lui qui a tué Abel. Et il avait peur que les gens le tuent. Il y avait des gens. Quels gens? Ben, écoutez, la Bible ne le dit pas, mais il est clair que Adam et Ève ont eu des enfants. Ils n'ont pas eu que Caïn et Abel, ils ont eu d'autres enfants, des fils et des filles. Puis au bout d'un moment, ils ont grandi, ces gamins, puis ils se sont mariés entre eux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas une loi qui disait que c'était interdit de se marier entre frères et sœurs. Et puis cette race humaine était d'une telle pureté qu'il n'y avait pas de problèmes congénitaux et tout. Enfin bon, ils ont eu des frères et sœurs, ils se sont mariés entre eux, et puis ils ont commencé à se multiplier. Et Caïn avait peur qu'un de ses frères ou une de ses belles-sœurs, ou que sais-je, ne venge le sang de Abel. Alors Dieu lui a donné une bonne nouvelle, il lui dit « Je mets un signe sur toi afin que les gens te reconnaissent et sachent que c'est toi et que si quelqu'un te tue, eh bien je vais m'occuper de lui très sérieusement. » Enfin, vous lirez ça dans Genèse 4:15. Donc Dieu, Jésus, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, a donné une bonne nouvelle, encore un évangile ici à Caïn. Bon, et puis il y a eu l'évangile de Jésus-Christ à Noé. Ben oui, après le déluge, Dieu a annoncé à Noé qu'il ne détruirait plus la terre avec l'eau. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est un évangile. Vous lirez ça dans Genèse 8, 21, 22. Et puis, il y a eu l'évangile de Jésus-Christ à Abraham. De toi sortira un peuple, mon peuple. Hein? C'est une bonne nouvelle. Vous comprenez, mes frères et sœurs, ce que je suis en train de dire là. Puis, il y a eu l'évangile de Jésus-Christ à Moïse. Je t'ai choisi pour libérer mon peuple de l'esclavage. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est un évangile. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Et je vais vous donner une loi, si vous observez ma loi, vous allez vivre, etc. C'est une bonne nouvelle. Dieu qui s'occupe de l'être humain. Dieu qui tend sa main à l'homme, à la femme, aux enfants. Vous voyez, l'évangile de Jésus-Christ a plus de 2000 ans, mais il n'a pas été toujours comme... Nous le connaissons, nous, l'évangile de Jésus-Christ à Adam était différent de l'évangile de Jésus-Christ à Noé, etc., etc. Bon, je pense que vous êtes suffisamment intelligent et spirituel pour comprendre ce que je dis là. Depuis Adam, il y a toujours eu sur Terre une bonne nouvelle de la part de Dieu. Mais même avant la création du monde, il y avait des bonnes nouvelles. Par exemple, quand Dieu réunit son conseil, les esprits, et qu'il parle de son projet de créer les cieux et la terre. C'est écrit que les esprits battaient les mains, se réjouissant, etc. etc. Bon. Il y a un évangile donc, qui est éternel, qui est des bonnes nouvelles qui existaient déjà avant la fondation du monde. Et Dieu est en train de rétablir cet évangile dans son Église. Il veut que son Église ait la totalité de la chose. Cet évangile éternel que Dieu rétablit dans son Église, c'est celui-là même que l'ange annoncera à toute la terre pendant la grande tribulation. Mais c'est pas normal que les gens qui n'auront pas été enlevés, qui seront là pendant la grande tribulation, aient l'évangile éternel alors que l'Église de Jésus-Christ sur terre ne l'est pas. Il le donne d'abord en prémisse à son Église. Mais maintenant, est-ce qu'elle va le vouloir? Est-ce qu'elle va l'accepter? Ça, c'est une autre histoire. Cet évangile, cette bonne nouvelle, elle existe aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle qui permet que la terre entière ne soit pas frappée par la malédiction. Qu'est-ce que tu racontes, Michel ? Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer. Cette bonne nouvelle, cet évangile, n'est pas un nouvel évangile. C'est l'évangile éternel dont je viens de vous parler. Alors, on va voir comment la communauté du sanctuary en est venue à savoir ces choses, à connaître ces choses. Je vous l'explique. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner. Simplement, je vous informe. Après, c'est à vous de demander à Dieu si c'est vrai ou pas. Vous savez tous qu'on a fréquenté les branhamistes. Hein. Je n'ai jamais caché, j'en parle dans mes prédications sur Révélation Bible et tout. C'était le papa spirituel d'Osborne, etc., etc. Donc voilà. Quand nous avons fréquenté les branhamistes, nous avons appris beaucoup de choses, en particulier dans un livre qui s'appelle Les Sept Âges de l'Église, l'autre La Révélation des Sept Sceaux, et puis des quelques brochures qui sont particulièrement magnifiques, comme La Stature d'un Homme Parfait. Il y a des merveilles, des choses extraordinaires. Je vous en ai déjà parlé. Et comme tout être spirituellement équilibré, nous avons trié, nous avons su faire la part entre ce qui est du ministère de Frère Branham et de ce qui est de l'homme, Frère Branham. L'homme était limité. L'homme était limité. Il a dit des bêtises. Je vous en ai parlé dans une des prédications, les sept pierres. La pierre de Daniel, je vous en ai parlé, je vous ai expliqué. Je ne reviens pas là-dessus. Les branhamistes présente William Branham comme étant Élie qui avait été annoncé par le prophète Malachie. On va lire cette prophétie du prophète Malachie, à ne pas confondre avec les prophéties des derniers papes, la prophétie de Malachie, c'est un autre Malachie. Là, je vous parle d'un Malachie biblique. Hein. On lit cette prophétie dans Malachie 4, 23-24. Il y a certaines Bibles, ce n'est pas la même référence, ça dépend les versions. Vous avez des versions où c'est Malachie 3, et puis vous avez des versions, c'est Malachie 4. Là, par exemple, dans la dernière version, la version archéo, c'est Malachie 3. Bon, j'y peux rien, c'est pas moi qui fais les numéros. Hein. Mais le texte est le même. Alors il dit, c'est Dieu qui dit à Malachie, au travers du prophète Malachie, il dit, « Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, c'est-à-dire le jour... grand et redoutable, le jour où ce sera le jugement, la fin. Juste avant ça, il enverra Élie. Je ramènerai le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays, ou dans l'autre version, la terre, de destruction. » Alors, les branhamistes nous ont enseigné que William Branham est Élie. Et qu'il est venu, et qu'il a rapproché, réconcilié les pères avec leurs fils, etc., etc. Bon, pourquoi pas ? Moi, ça ne me gêne pas, ça ne gêne en rien ma vie pratique de chrétien, de croire ça. Bon, ça ne me gêne pas. Seulement, avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas vrai. Ce n'est pas vrai. En fréquentant les branhamistes, j'ai constaté que il y en a certains, même la majorité, beaucoup, divinisent Frère Branham, c'est épouvantable. Et en plus, si vraiment il est le Élie qui doit rapprocher, c'est-à-dire réconcilier les pères avec leurs fils, ben, il faudrait d'abord qu'ils commencent à réconcilier les branhamistes entre eux, qui sont hyper divisés. Le message sur les brochures et sur les bandes magnétiques sont tellement fouillis, excusez-moi, il y a tellement d'imprécisions que ça prête à toutes sortes d'interprétations et ils sont toujours en train de se chicaner. Moi, j'ai assisté à plusieurs pastorales, à des dizaines de pastorales. Ben, ça finit presque à coup de poing. Je veux dire, c'est terrible, c'est grave, ils sont vraiment graves. Bon, en tout cas, sur ce sujet, bref, voilà. Je sais que ça n'est pas Élie. Ça n'est pas Élie. Il n'est pas Élie. J'ai fini par comprendre que William Branham n'était pas le Élie annoncé par Malachie. Par contre, j'ai lu un message de William Branham lui-même qui raconte qu'un prophète mormon, c'est-à-dire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, que tout le monde appelle les mormons, eh bien, un prophète mormon a annoncé, des dizaines d'années avant la naissance de William Branham, il a annoncé qu'il y aurait un prophète qui s'appellerait William Branham. Dans la prophétie, il y a le nom
C'est Branham lui-même qui le raconte, hein. Et il précisait que ce William Branham, dans la prophétie, précisait qu'il vivrait à la même époque où il y aurait un parti puissant qui verrait le jour et qui s'appellerait le nazisme. Mais comment voulez-vous que dans les années 1800, quelqu'un puisse savoir une chose pareille si ce n'est par l'esprit de prophétie? Tout ça a été annoncé donc prophétiquement des dizaines d'années avant la naissance de William Branham. Ce prophète mormon disait qu'il fallait laisser Branham accomplir son travail parce qu'il était un envoyé de Dieu et que Dieu exaucait ses prières. Ok, je vous en ai déjà parlé dans une des prédications qui s'appelle Pierre de Daniel 1, 2, 3, 4. Écoutez-les, vous en saurez davantage. Mais ce n'est pas ça qui m'a convaincu que William Branham n'est pas Élie. En fait, en réalité, Élie est venu, oui, mais ce n'était pas William Branham. C'était Élie lui-même. Je vous rappelle qu'Élie n'est pas mort, mais qu'il a été enlevé dans un char de feu. Eh bien, il est apparu à Joseph Smith le 3 avril 1836. Ah, je sais que les évangéliques vont crier « Au secours !» Michel Jonton devient mormon. Mais non, je ne deviens pas mormon. Mais quand je trouve quelque chose qui est intéressant et qui tient la route et qui est spirituel et qui ne contredit pas les Écritures, je ne vais pas rejeter ça bêtement parce que la hiérarchie pentecôtiste ou catholique me dit que c'est mauvais. Voilà comment s'est produit cela. Je vous explique comment c'est arrivé. D'abord, un ange a parlé à Joseph Smith le 21 septembre 1823 à Manchester, dans l'état de New York. Et je vous lis ce qui s'est passé exactement. Cet ange, donc, je vous lis ça dans le livre de Mormon, dans un passage qui s'appelle Doctrine et Alliance, ils appellent ça section 2. Alors je vous lis, c'est très court. « Voici, je vous enverrai la prêtrise par la main d'Élie, le prophète, afin que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. Avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. Il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites au Père, et le cœur des enfants se tournera vers leur Père. S'il n'en était pas ainsi, la terre entière serait complètement dévastée à sa venue. » À la venue du Messie, à la venue de Jésus, jour terrible et grand et redoutable dont Malachie nous parle. Et ce n'est que 13 ans après que cet ange n'ait parlé à Joseph Smith que cette prophétie s'est réalisée. La prophétie de Malachie s'est réalisée le 3 avril 1836. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit ce jour-là dans une ville qui s'appelle Kirtland en Ohio. Et on le lit cette fois dans toujours le livre de Mormon, dans le livre qui s'appelle Doctrine et Alliance, à la section 110. Je vais vous lire la totalité, ce n'est pas très long. Ayez un peu de patience, écoutez, et puis ensuite demandez à Dieu est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Alors voilà. Vision manifestée le 3 avril 1836 à Joseph Smith, le prophète, et à Olivier Cordry, c'était son second en quelque sorte, au temple de Kirtland, Ohio. Cela se passa à l'occasion d'une réunion de jour de Shabbat, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Ils ne sont pas adventistes à faire le samedi, etc. Hein. Avant de noter ces manifestations, le prophète écrivit la préface suivante. L'après-midi, c'est donc ce prophète qui écrit, « L'après-midi, j'aidais les autres présidents à distribuer le repas du Seigneur aux membres de l'Église, donc la Sainte Cène, le recevant des 12 qui avaient l'honneur d'officier ce jour-là à la table sacrée. Après avoir rendu ce service à mes frères, je me retirai jusqu'à la chaire. Les voiles étant baissées, je me prosternai avec Olivier Cordry en prière solennelle et silencieuse. Lorsque nous nous relevâmes, après avoir prié, la vision suivante nous fut donnée à tous deux. » Donc tous les deux, ils ont vu. « Le voile fut enlevé de notre esprit et les yeux de notre entendement furent ouverts. Nous vîmes le Seigneur debout sur la balustrade de la chaire devant nous. Sous ses pieds, il y avait un pavement d'or d'une couleur semblable à l'ambre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux étaient blancs comme la neige, immaculés, son visage était plus brillant que l'éclat du soleil et sa voix était comme le bruit du déferlement de grandes eaux. Oui, la voix de Jéhovah disant « Je suis le premier et le dernier, je suis celui qui vit ».
Je suis celui qui fut immolé. Je suis votre avocat auprès du Père. Voici vos péchés vous sont pardonnés. Vous êtes pur devant moi. Levez donc la tête et réjouissez-vous. Bonne nouvelle. Que le cœur de vos frères se réjouisse et que le cœur de mon peuple se réjouisse. Mon peuple qui a bâti de toutes ses forces cette maison à mon nom. Car voici, j'ai accepté cette maison et mon nom sera ici. Je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple dans cette maison. Oui, j'apparaîtrai à mes serviteurs et je leur parlerai de ma propre voix. Si mon peuple garde mes commandements et ne souille pas cette sainte maison. Toujours une condition. Hein. Oui, le cœur des milliers et des dizaines de milliers sera dans une grande allégresse à cause des bénédictions qui seront déversées et de la dotation que mes serviteurs ont reçue dans cette maison. Ils sont plus de quelques milliers, ils sont 15 millions maintenant. Et la renommée de cette maison se répandra dans les pays étrangers, et c'est là le commencement de la bénédiction qui sera déversée sur la tête de mon peuple. J'ai dit Amen. Lorsque cette vision se fut refermée, les cieux s'ouvrirent de nouveau à nous. Moïse apparut devant nous et nous remit les clés pour rassembler Israël des quatre coins de la terre et pour ramener les 10 tribus du pays du Nord. Je vous rappelle qu'à l'époque, Israël n'était pas encore une nation. Et eux, ils croyaient que ça allait se faire. Dieu leur avait donné la clé et ils priaient pour que Israël redevienne un pays, redevienne une nation. En 1836, c'est arrivé que 109 ans après, 100 ans après. Quoi. Après cela, Élias apparut et remit la dispensation de l'évangile d'Abraham. Élias est quelqu'un qui vivait du temps d'Abraham, disant qu'en nous et en notre postérité, toutes les générations après nous seraient bénies. Voyez, il y a, comme je vous disais, l'évangile qui était donné à Adam, à Noé, à Abraham, etc. Bon, les clés d'Abraham maintenant. Lorsque cette vision se fut refermée, une autre vision, grande et glorieuse, jaillit devant nous. Élie, le prophète, qui fut enlevé au ciel sans goûter la mort, se tint devant nous et dit « Voici, le temps est pleinement arrivé. » Ce temps dont il a été parlé par la bouche de Malachie, lorsqu'il a témoigné qu'Élie serait envoyé avant la venue du jour du Seigneur, jour grand et redoutable, pour tourner le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers les pères, de peur que la terre entière ne soit frappée de malédiction. C'est pourquoi les clés de cette dispensation sont remises entre vos mains et vous saurez par là que le jour du Seigneur, grand et redoutable, est proche et même à la porte. Amen. La prophétie de Malachie s'est réalisée ce 3 avril 1836. Élie est venu, comme Malachie l'avait dit. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit ce jour-là à Kirtland, en Ohio. On va le lire dans Doctrine et Alliance. Oui, ben c'est ce que je viens de vous lire dans Doctrine et Alliance 110. Donc voilà, Joseph Smith ne prétend pas être Élie, pas du tout. Il dit que Élie lui est apparu à lui et à son second, Olivier Cojoui, le 3 avril 1836. Et Élie donna les clés de cette dispensation à Joseph Smith ce jour-là. Les clés qui servent à ouvrir, les clés, elles servent à ouvrir des portes. Et il y a des portes qui étaient fermées. Et à partir de là, elles ont été ouvertes. Quelle porte est-ce que cela a ouvert? Celle d'un ministère qui est rétabli et d'un ministère qui empêche que la terre entière soit frappée de malédiction, comme Malachie le dit. Élie a donné à Joseph Smith les clés qui ouvrent la révélation que Jésus est allé réellement prêcher l'évangile aux morts, 1 Pierre 3,19, l'évangile, pas n'importe quoi, l'évangile, 1 Pierre 4,6, comme il nous est dit, que l'évangile est aussi annoncé aux morts, il est annoncé aux vivants et aussi aux morts, afin que, après avoir cru, ils puissent vivre quant à l'esprit. Ils ont été jugés, ils ont été mis dans le séjour des morts, mais là l'évangile leur est prêché, afin que s'ils y croient, ils puissent vivre aussi quant à l'esprit. Et nous, nous avons à nous faire baptiser à leur place, selon 1 Corinthiens 15-29, parce qu'il n'y a pas de salut s'il n'y a pas de baptême. C'est « crois et sois baptisé ».
Pour être sauvé, c'est croire et être baptisé. Ça, c'est la base, c'est le minimum, Marc chapitre 16. Et qu'ainsi, ces milliards de personnes qui ont vécu sur la terre sans connaître l'évangile éternel de Jésus puissent être sauvées. Et que la terre entière ne tombe pas sous la malédiction. D'après les chrétiens évangéliques et autres, ne sont sauvés que ceux qui ont levé leurs mains dans une réunion et qui fréquentent l'église. Voilà, en France, ça fait à peu près 40 000 personnes. Allez, 100 000 personnes, mettons. Ben, dis donc, ça fait pas grand monde, hein, sur 60 millions de personnes. En fait, c'est la terre entière, tous ces gens-là ne croient pas, ils sont perdus, ils sont en enfer. Ils ne le disent pas clairement, mais c'est ça que ça veut dire. Là, Malachi dit, je vous enverrai Élie, et il est venu, et il a donné les clés afin que quelque chose puisse être fait, afin que la terre entière ne soit pas frappée de malédiction. Et Joseph Smith a été choisi pour apporter une connaissance qui avait été perdue, parce que cette connaissance existait au début de l'Église, jusqu'au IVe siècle, les chrétiens se faisaient baptiser pour leur mort, pas tous les chrétiens, mais l'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection, qu'est-ce que ceux qui se font baptiser pour les morts font? Alors ça ne sert à rien du tout qu'ils se fassent baptiser pour les morts, vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 15, 29 ou 23, je ne sais plus. Donc c'est quelque chose qui était perdu à cause du catholicisme, qu'il a interdit, dans un concile au IVe siècle, c'était perdu aussi par les juifs, les chrétiens, tout ça c'était perdu au cours des siècles. Et je vous raconterai en détail comment cette connaissance est venue à Joseph Smith, mais ça sera au cours des vendredis prochains, et on va prendre notre temps pour le moment. Je vais juste vous dire certaines choses afin d'éveiller votre attention. Je vais vous lire une des nombreuses choses qui ont été révélées à Joseph Smith, le prophète, et qu'on trouve dans le livre de Mormon. Je vais vous lire un passage de ce livre qui raconte ce qui est arrivé 3 ans avant la mort de Adam. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui, il faut sortir un petit peu, il faut savoir, il faut connaître, il faut apprendre les choses. Il ne faut pas rester simplement à écouter, à nonner toujours les mêmes choses. Jésus est en train de rétablir son Église, rétablir son Évangile, rétablir tout. Alors, nous lisons dans Doctrine et Alliance 107-53, vous allez voir que c'est important, vous allez voir pourquoi je vous ai choisi ce passage plutôt qu'un autre. Voilà ce qui est écrit. 3 ans avant sa mort, Adam convoqua Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch et Methuselah, qui étaient tous grands prêtres avec le reste de sa postérité, qui était juste, dans la vallée d'Adam, Odin, Aman. Et il leur y conféra sa dernière bénédiction. Et le Seigneur leur apparut, et ils se levèrent, bénirent Adam, et l'appelèrent Michel, le prince archange. Et le Seigneur consola Adam et lui dit, « Je t'ai placé à la tête, une multitude de nations sortiront de toi, et tu es leur prince à jamais. » Et Adam se leva au milieu de l'assemblée, et bien que courbé par l'âge, étant rempli du Saint-Esprit, il prédit tout ce qui arriverait à sa postérité jusqu'à la dernière génération. Toutes ces choses furent écrites dans le livre d'Enoch, et il en sera témoigné en temps voulu. Et il en sera témoigné en temps voulu. Eh bien, mes frères et sœurs, ce temps est arrivé. Vous savez tous qu'on a trouvé des manuscrits de la mer Morte dans les années 40, mais c'est qu'en 1977, année de la création de notre communauté, juste un petit clin d'œil, on trouve parmi les manuscrits de la mer Morte des fragments araméens du livre d'Enoch. Et le nom savant de ces fragments du livre d'Enoch, le nom est 4Q201. Vous allez sur Internet, vous cherchez, vous trouvez. Je ne suis pas en train de vous raconter des bobards. Ces fragments attestent de la présence de ce livre d'Enoch dans la littérature du judaïsme ancien. Parce que le Vatican gardait dans ses caves 3 versions du livre d'Enoch, des fragments aussi, en partie, mais il les considérait comme faux, parce qu'ils dataient du 3e siècle, après Jésus-Christ. Joseph Smith, en prophétisant dans le livre de Mormon le 28 mars 1835, ce que je viens de vous lire, ne pouvait rien savoir au sujet du livre d'Enoch. Il y avait à cette époque 3 exemplaires donc, du livre d'Enoch, des manuscrits du 3e siècle après Jésus-Christ. Et pour faire court, ces livres d'Enoch découverts ont été publiés seulement par l'Église catholique en 1846, c'est-à-dire 9 ans après que Joseph Smith prophétisa à leur sujet. Il ne pouvait pas le savoir, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a annoncé que les livres d'Enoch... Le livre d'Enoch existait et qu'il serait manifesté en son jour, en son temps, au temps voulu. En 1835, Joseph Smith était un homme de 30 ans qui avait été élevé à la campagne. C'était un broussard, un Américain, excusez-moi, un peu inculte. Ce n'était pas un savant, ce n'était pas un théologien. C'était un homme de la campagne qui avait été à l'école, oui, mais très peu. Et puis il n'y apprenait pas ce qu'on y apprend aujourd'hui, il n'avait pas l'Internet, il n'avait pas accès à toute la littérature, il ne pouvait pas savoir au sujet du livre d'Enoch, qui en 1835 était tenu caché dans les caves du Vatican et considéré comme un faux. Bien, pourquoi et comment j'en suis arrivé à croire tout ça? C'est après 17 ans de prière et d'études, de recherche. Alors mes frères et sœurs ne me disent pas « Oui, oui, j'ai lu le livre de Mormon, il y a plein d'erreurs. » Oui, oui, vous avez même déjà pas lu suffisamment votre Bible. Si vous l'aviez lu suffisamment, vous verriez aussi qu'il y a des erreurs dedans. Mais ça, vous ne voulez même pas le savoir. Vous avez qu'à écouter une de mes prédications là, sur les pierres de Daniel et vous allez voir, je vous cite, il y a une de ces prédications où je vous cite plein de contradictions et d'erreurs qui sont glissées, des erreurs humaines. C'est pas important, mais elles sont là quand même, dans la Bible. Donc arrêtez de dire qu'il y a des erreurs dans le livre de Mormon, il y a aussi des erreurs dans la Bible, il y a des erreurs partout. Il n'y a que Dieu qui soit Dieu, il n'y a aucun livre qui est divin. Alors, comment j'en suis arrivé à croire ça, après 17 ans de prière et d'études, mes frères et sœurs? Alors arrêtez de me dire j'ai lu sur Internet ou je ne sais pas quoi. Frères et sœurs, pourquoi le rétablissement de toutes choses, et en particulier de l'Évangile de Jésus-Christ a commencé aux États-Unis et pas en Israël, par exemple, ou pas en France? On voudrait que ça se passe en France, ça se passait en France encore à la limite. Mais parce qu'aux États-Unis, il y a eu une loi constitutionnelle qui donnait aux citoyens la liberté de croyance. Mes frères et sœurs, la liberté vient de Dieu et cette loi constitutionnelle protège cette liberté. La création de la Constitution américaine, elle a été une partie importante du plan de Dieu. Je vous rappelle que beaucoup de gens qui ont quitté l'Europe pour aller s'établir aux États-Unis, ce n'étaient pas simplement des chercheurs d'or. Il y avait beaucoup qui fuyaient à cause de la persécution religieuse ou parce qu'ils voulaient être libres de croire comme ils voulaient et de manifester leur foi comme ils l'entendaient. Quelques-uns de mes ancêtres sont partis là. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé, c'est des Borel. C'était le frère de ma grand-mère, elle était partie là-bas. Sans la Constitution, il n'y aurait pas de gouvernement comme celui auquel pensait le Seigneur. Le Seigneur Dieu a donné à ce gouvernement une Constitution écrite par des hommes sages qu'il a suscité dans ce but. C'était un pas immense dans la création de l'atmosphère de liberté dans laquelle l'Évangile pourrait être rétabli, puis ensuite porté à toutes les autres nations. La Constitution américaine assurait la liberté de religion, d'expression, de la presse et de réunion. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas ici. C'est pourquoi, en vertu de la Constitution, le Seigneur pouvait rapporter l'Évangile et rétablir son Église. En fait, dans le chaos où se trouvait le monde, n'oubliez pas que quand même on sortait de la Révolution, la Constitution a été l'œuvre de la main de Dieu et le rétablissement de l'Évangile a aussi été l'œuvre de sa main. tous les deux faisaient partie d'un grand tout. Dieu ne fait pas les choses par hasard. C'est arrivé là-bas, à ce moment-là, tous les deux, le rétablissement de l'Évangile et la Constitution américaine, ces deux ont pris place dans le programme de Dieu pour les derniers jours du temps des nations. Tous les hommes de ce pays recevaient là le pouvoir d'adorer Dieu selon l'inspiration de leur conscience, et cela comprenait Joseph Smith et ses amis, et puis plein d'autres qui ont créé leur secte, leur machin, leur truc, et voilà. Alors c'est vrai qu'ils ont été persécutés malgré le fait qu'il y avait cette constitution. Pourquoi ils ont été persécutés? Mais parce que dans le peuple, il y a toujours des sauvages. Il y a toujours aussi des gens obtus, sectaires, qui diabolisent tout ce qui n'est pas comme ce qu'eux pensent. Mais c'est qu'ils ont été très loin, les persécuteurs des Mormons. Ils ont été jusqu'à massacrer, tuer, détruire, incendier des villes, brûler. C'est effrayant ce qu'ils ont fait. Je vous en parlerai, je vous expliquerai toutes ces choses. Ils ont été persécutés, comme tout peuple de Dieu l'a toujours été, mais la loi, la Constitution prévoyait exactement ce que le Seigneur voulait, la liberté de rétablir son œuvre dans les derniers jours, afin que la terre entière ne soit pas frappée de malédiction. Parce que Dieu avait pris ses dispositions en conséquence. Souvenez-vous que la découverte des Amériques, puis la constitution des États-Unis, ont été des étapes fondamentales qui ont préparé la seconde venue de Jésus. Parce que souvenez-vous, d'après Actes chapitre 3, que Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses ne pouvait pas être quelque chose de fait avant qu'il y ait cette liberté religieuse. Impossible avant. Alors, vendredi prochain, je vous parlerai davantage de qui était ce Joseph Smith que les pentecôtistes, baptistes, catholiques et autres diabolisent. Et de qu'est-ce que c'est que ce fameux livre de Mormon? Parce que tous les chrétiens évangéliques disent « Oui, les Mormons, ils ont deux Bibles. » Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils ne l'ont jamais lu et ils disent « Voilà. » Puis ils écrivent des articles sur Internet et puis... Et les chrétiens méprisent bêtement, sans avoir vraiment lu, sans avoir vraiment étudié, ce livre qui n'est pas divin. Il s'y trouve des erreurs, comme il y en a dans la Bible. Je vous en parlais donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la prédication qui s'appelle « La pierre de Daniel 2 ». C'était le 25 mars 2016. Vous pouvez aller l'écouter. Osez écouter, si vous avez du courage. Ou alors, ignorez tout ça et puis continuez à idolâtrer la Bible et à dire que c'est la parole de Dieu parfaite et tout. Continuez, continuez. Vous serez rendu coupable d'idolâtrie. Parce qu'il n'y a rien de divin sur la terre. Il n'y a que Jésus qui soit divin. Il n'y a rien de parfait sur la terre. Il n'y a que Jésus. Que Jésus. Alors, nous ne sommes pas des Mormons. Nous sommes des chrétiens. Les Mormons ne sont pas Mormons. Ils sont chrétiens. C'est tout. Nous sommes des chrétiens libres de croire, libres d'adorer Dieu selon notre conscience. Et vous pouvez trouver qu'on a tort, ça ne nous gêne pas. Pas plus que ça nous gêne que vous pensiez autrement que nous, ça ne nous gêne pas. On peut rester amis, on n'est pas obligé de se condamner, de se traiter de possédé, d'être méchant, d'être sectaire. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est être, puisqu'on est chrétien, vous et moi, nous, c'est de prier et de demander à Dieu, à le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, si ces choses sont vraies, et le Saint-Esprit vous révélera qu'elles sont vraies, si votre cœur est animé de bonnes intentions. Parce que si votre intention, c'est de trouver des défauts, vous allez en trouver. Mais si votre intention est de dire, Seigneur, je veux savoir la vérité, ben là, c'est autre chose. Si votre intention est bonne, vous trouverez. Si votre intention n'est pas bonne, vous ne trouverez rien du tout. Vous trouverez un bouquin, puis vous lirez des bouts, puis vous direz « Oh là là, ça m'embête », et puis voilà. Ok, je vais terminer là ce soir. Je vais prier pour que vous soyez que vous remettiez de toutes ces émotions et puis que vous réfléchissiez, que vous demandiez au Seigneur, que vous soyez sérieux et conséquent et cohérent. Seigneur Jésus, sois béni pour toutes ces choses et je te prie que tu aides chacun et chacune à trouver la vérité, parce que c'est quand même très important que nous puissions exercer ce ministère dont les clés ont été données par Élie, afin que le cœur des pères soit tourné vers le cœur des fils, que nous puissions accomplir ce ministère du baptême pour les morts, afin que la terre entière ne soit pas ne tombe pas sous la malédiction, mais que beaucoup puissent être ainsi par l'évangile prêché là-bas et ce que nous faisons ici sur terre, que beaucoup puissent être sauvés. Je te remercie, mon Dieu, d'aider chacun et chacune à comprendre cela et à donner à chacun un bon cœur avec de bonnes intentions pour bien comprendre et l'humilité de reconnaître que bon, il a pu avoir tort de temps en temps. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Moi, quand je fais une boulette, je reconnais. Hein. J'ai cru qu'Élie, que William Branham était Élie. Je me suis trompé. Je reconnais. Je dis, pardon, je me suis trompé. C'était pas ça. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui fait rien, celui qui cherche rien, il trouve rien. Et celui qui fait quelque chose, il fait de temps en temps des erreurs, mais Dieu lui donne le droit de faire des erreurs. Mais il lui donne aussi le devoir de se repentir des erreurs qu'il a faites. Alors, je me repens d'avoir dit que William Branham était Élie, et je vous en demande pardon, et je vous demande maintenant de prier, de réfléchir sérieusement, et puis de voir que toutes ces choses se tiennent, toutes ces choses se tiennent. Ce n'est pas du n'importe quoi. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à dimanche. Dimanche, je prêcherai quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est une étude spéciale qu'on fait en ce moment, le vendredi uniquement. Que Dieu vous garde. À bientôt. Au revoir, mes frères et sœurs.